finalement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères.
Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle.
Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur.
Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous.
Tout ce qui a un trait à l'Orient, au Proche-Orient, a toujours, toujours eu des représentants éminents au collège. Également Champollion.
Champollion,
qui
oui.
Malheureusement est mort, tout de suite après avoir été nommé.
Vous voici conviés dans le grand amphithéâtre du Collège de France auquel s'associe France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale. Cet état des lieux d'une recherche en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. Comment introduire la grammaire égyptienne et ouvrir une riche tradition orientale et archéologique au Collège de France, malgré un bref passage dans l'institution pluriséculaire? L'administrateur du Collège de France, Yves Laporte, situe la révolution scientifique de Jean-François Champollion à l'origine d'un vaste mouvement, le Collège de France étant, après la Bibliothèque nationale, la deuxième institution à ouvrir un cours d'archéologie en 1831 et à comprendre l'importance croissante de cette nouvelle discipline tout au long du XIXe siècle. Yves Laporte restitue la figure fugitive et tutélaire de Champollion, à la fois philologue, archéologue et égyptologue, à laquelle de nombreux professeurs ne manquent pas de revenir. Ainsi Jean Leclan, qui rappelle dans sa leçon inaugurale, et je le cite, « Il n'y avait pas 10 ans qu'en septembre 1822, dans sa lettre à M. Dacier, Champollion, mettant en application l'acquis d'un savoir énorme, par une géniale intuition, avait découvert les clés du système hiéroglyphique et ajouté à l'histoire de l'humanité d'un coup plus de 3 millénaires d'une civilisation prestigieuse. Puis, ce qui est tout aussi stupéfiant, il avait aussitôt fixé la chronologie, décrit la géographie et le panthéon de l'Égypte antique. En mai 1826, l'ordonnance qu'il avait nommée conservateur des monuments égyptiens du Louvre avait également prévu un cours public pour exposer les systèmes d'écriture pharaonique. Bientôt, cependant, raconte encore Jean Leclan, Champollion était parti sur les rives du Nil jusqu'à la deuxième cataracte, copier textes et scènes sur les parois des temples et des tombes. Dans l'ouvrage collectif consacré à la politique des chaires au Collège de France, Élise Lehoux rappelle que Champollion est alors l'objet de toutes les convoitises et que la première chaire d'archéologie est en fait une création dans la vénérable institution. Mais entre la lettre à Dacier et cette nomination, presque 10 ans se sont écoulés, comme le rappelle Alexandre Moret, titulaire ultérieur de la chaire d'égyptologie. Et je le cite. Dès la publication de la lettre en 1822, les admirateurs de Champollion, Sacy, Victor Cousin, Arago, demandent à Louis XVIII la création d'une chaire au Collège de France. Toutefois, la jeunesse de Champollion note-t-il encore, les critiques acerbes de rivaux intéressés et aussi les difficultés budgétaires empêchèrent la réalisation immédiate du projet. C'est après la Révolution de juillet que le roi Louis-Philippe a ordonné la création d'une chaire d'archéologie au Collège de France. Mais l'illustre égyptologue originaire de Figeac n'y prononcera que 8 leçons. Il décède prématurément à l'âge de 42 ans en 1832. Léon Bonafé prête sa voix à Jean-François Champollion qui connaissait sa grammaire persane sur le bout du doigt comme il l'écrit à son frère en 1807. Champollion avait suivi dans sa jeunesse les cours de M. de Sacy au Collège de France, passant régulièrement des heures à parler des langues orientales, à traduire l'hébreu, le syrien, le chaldéen ou l'arabe, à travailler la grammaire. Une approche de linguiste liée aussi à la consultation de manuscrits coptes qui permettra la grande découverte de sa vie. Et nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France le 10 mai 1831 pour la leçon inaugurale de Jean-François Champollion intitulée « Discours d'ouverture du cours d'archéologie ».
Si François Ier, en jetant les fondements de son Collège des Trois Langues, s'était proposé d'indemniser la France de sa rançon de Pavie, ce noble but serait atteint depuis longtemps. Le domaine de la science est en effet naturellement fécond. Ses riches produits rémunèrent toujours la main bienveillante qui le cultive, et leur variété même semble ajouter à leur prix. Toutes les sciences ont trouvé, dans le collège de François Ier, un asile honorable. Et la liste de celles qui, jusqu'ici, y furent appelées, formerait une sorte de résumé encyclopédique des créations de l'intelligence humaine. On pourrait ajouter et un résumé de ses variations et de ses progrès, car les quatre chaires primitives de 1530 s'élèvent aujourd'hui à 24, et trois seulement des créations fondamentales survivent intactes à leurs trois siècles d'existence. Guillaume Budet avertissait le fondateur du Collège de France que l'étude des langues, semblable à une pauvre fille sans dot, était l'objet d'un dédain qu'elle n'avait pas mérité. Il réclamait en sa faveur quelques marques de la protection royale. Honorée aujourd'hui à l'égal de toutes les sciences utiles, cette étude a porté ses fruits. Elle donne à notre littérature nationale une intelligence plus intime de ses anciens modèles et lui en découvre chaque jour de nouveau. On lui doit encore de puissants moyens d'épreuve sur la véracité de l'histoire et les fondements de la critique, science qui soumet à son examen les écrits et les monuments des peuples. L'Europe savante l'a reconnue, c'est la France qui eut l'avantage de fournir aux autres nations et les préceptes et les meilleures applications de la critique historique. Des noms justement honorés protégèrent les premiers pas de la science quand elle tenta de s'échapper enfin des langes d'une routine trop longtemps empirique, et la maintiennent encore dans sa véritable direction par l'autorité de leur exemple et par l'éclat de leur renommée. Il faut l'espérer, notre patrie saura conserver ce précieux héritage, en songeant à l'améliorer plutôt qu'à l'étendre. Que pourrait-elle d'ailleurs y ajouter encore quand, dépassant les limites mêmes de l'Antiquité classique et poursuivant sa marche, la critique historique embrasse déjà dans son domaine les parties les plus éloignées des continents de l'Asie et de l'Afrique. C'est sur une portion de cette vieille terre qu'une grâce récente du roi m'impose l'honorable devoir de ramener votre attention. La gloire de l'Égypte est bien ancienne. Notre valeureuse France a su la rajeunir en l'associant à ses propres triomphes. L'Égypte sera donc à plus d'un titre un sujet presque tout français. Mais ce n'est point de notre temps seulement que l'Égypte est devenue un objet de recherche pour l'érudition moderne. À l'époque de la Renaissance, l'Europe, si longtemps malheureuse par la violence des gouvernants et par la profonde ignorance des populations, s'efforça, en étudiant avec constance les écrits et les monuments de l'Antiquité échappés aux barbares de races et de religions diverses, de s'approprier les idées, les sciences, les arts et les formes de civilisation des peuples qui brillèrent sur la terre avant l'invasion des hordes scythiques. Et si les nations modernes peuvent s'enorgueillir à bon droit de leur lumière ou de leur bien-être matériel, on ne devra point l'oublier, c'est aux obscurs et longs travaux des lettrés, infatigables investigateurs des ruines du temps passé, que les sociétés européennes doivent la possession d'un précieux héritage, les leçons de l'expérience des peuples nos devanciers, la connaissance des principes fondamentaux des sciences, des arts et de l'industrie que nous avons approfondis et développés d'une manière si merveilleuse. L'histoire, dont le but marqué, le seul digne d'elle, est de présenter un tableau véridique des associations humaines qui marchèrent avant nous dans la carrière de la civilisation, embrasse une telle immensité de faits d'un ordre si différent et d'une nature si variée qu'elle emprunte forcément le secours de tous les genres d'études, de celles mêmes qui forment, en apparence du moins, des sciences tout à fait distinctes. À leur tête se place la philologie, prise dans un sens général. La philologie qui, procédant d'abord matériellement, fixe la valeur des mots et des caractères qui les représentent, et étudie le mécanisme des langues antiques. Bientôt, s'élevant dans sa marche, cette science constate les rapports ou les différences du langage d'un peuple avec les idiomes de ses voisins, compare les mots, reconnaît les principes qui président à leur combinaison dans chaque famille de langues ou dans chaque langue en particulier, et, nous conduisant ainsi à l'intelligence complète des monuments écrits des vieilles nations, nous initie dans le secret de leurs idées sociales, de leurs opinions religieuses ou philosophiques, constate, énumère les événements survenus pendant leur existence politique, les retrouve, pour ainsi dire, avec la couleur locale et la nuance du moment. Puisque ce sont en effet les anciens hommes qui nous parlent alors d'eux-mêmes, directement et sans intermédiaire, au moyen des signes tracés jadis par leurs propres mains. Une seconde science, placée par la nature même de son objet dans des rapports intimes avec la philologie, ou qui, pour mieux dire, en est inséparable, l'archéologie, assure à l'histoire ses fondements les plus certains, en recueillant pour elle les témoignages les plus authentiques de la réalité des événements passés, les témoignages des monuments originaux, produits des arts, retraçant les faits contemporains dont ils furent jadis des signes publics, des commémorations consacrées, et qui en restent pour nous des témoins irrécusables. C'est principalement au domaine de ces deux sciences réunies, l'archéologie et la philologie, indispensables auxiliaires de l'histoire, qu'appartiennent par leur propre essence, si l'on peut s'exprimer ainsi, les monuments de la vieille Égypte, objet principal du cours qui s'ouvre aujourd'hui. Les innombrables produits des arts égyptiens, arrivés jusqu'à nous à travers les injures du temps, et malgré les ravages de la barbarie musulmane ou de l'ignorance des premiers chrétiens, sont tous, en effet, à très peu d'exceptions près, accompagnés d'inscriptions plus ou moins étendues, relatives à leur destination, et précisant soit le motif, soit l'époque de leur exécution. Cette circonstance, heureuse sous tant de rapports, divise donc naturellement les études archéologiques égyptiennes en deux branches distinctes. D'abord, les études philologiques, ayant pour objet la langue, les divers systèmes d'écriture usités dans l'Antique Égypte, enfin, l'interprétation raisonnée et surtout raisonnable des inscriptions monumentales. En second lieu, les études archéologiques proprement dites, embrassant toute la série des monuments figurés sous le double rapport de l'art et de leur destination pour les usages civils ou religieux, militaires ou domestiques. La science archéologique a suivi, depuis sa naissance en Europe, une marche toute naturelle en remontant progressivement dans ses recherches la chaîne chronologique des peuples qui se sont succédés dans la carrière sociale. L'attention des antiquaires se concentra d'abord sur les monuments des Romains, monuments épars sur notre sol, les plus voisins de nous, et servant tour à tour de confirmation positive ou d'utiles éclaircissements aux textes des auteurs classiques latins, premier objet des études philologiques en Occident. En constatant la liaison des faits pour remonter à l'origine des procédés et du principe des arts romains, on arriva, par des transitions insensibles, à la recherche et à l'étude des monuments de l'ancienne Grèce, d'où étaient venues les sciences et les arts qui, adoucissant l'âpreté des mœurs latines, assurèrent aux noms romains sur les nations de l'ancienne Europe cette longue suprématie que n'eussent pu perpétuer les vertus guerrières et le seul emploi de la force physique. Dès ce moment, l'archéologie reconnut que Rome avait reçu par transmission immédiate les arts de la Grèce, encore empreints de leur simplicité si élégante et de cette inimitable pureté, principe de toute perfection. Que les dominateurs du monde, laissant aux Grecs le soin d'embellir la ville éternelle par les merveilles de l'architecture et de la sculpture, abandonnèrent leur religion et leur culte même au génie hellénique, puisque les images des dieux de Rome, adorées dans les temples, furent des produits de l'art et du travail de ces étrangers. Mais une telle concession de la part d'un peuple si jaloux de sa nationalité trouva bientôt, aux yeux de l'archéologue, une explication suffisante dans la communauté d'origine des Grecs et des Romains, issus d'une même race, comme le prouve l'extrême analogie de leur langage et l'identité de leurs croyances religieuses, dissemblables, il est vrai, en quelques points quant à la nomenclature, mais parfaitement identiques dans le fond de la doctrine et dans l'ensemble de leur forme extérieure. Ainsi, remontant le cours des âges, la science archéologique, parvenue à la source originelle des arts et de la civilisation des Romains, concentra ses moyens et ses efforts sur l'étude des monuments de l'antique Grèce, contrée fameuse, considérée, en général et par l'effet inévitable de l'instruction première donnée aux générations qui se succèdent en Europe depuis plusieurs siècles, comme le berceau primitif de notre civilisation, comme la véritable terre natale des sciences et des arts. Mais cette opinion s'affaiblit et se modifie singulièrement par un examen consciencieux des traditions et des monuments helléniques. Une étude sérieuse, dégagée du préjugé vulgaire qui, malgré l'évidence des faits et le témoignage positif des anciens Grecs eux-mêmes, tendrait à faire admettre le système de la génération spontanée des arts, des sciences et de toutes les institutions sociales sur le sol de l'ancienne Grèce, nous démontre que, comme partout ailleurs peut-être, ce pays, habité d'abord par quelques hordes barbares, fut successivement occupé aussi par des populations étrangères, dont l'arrivée opéra de grands changements et d'importantes modifications dans la langue, comme dans la religion, les pratiques des arts et les habitudes de la vie civile. La population véritablement hellénique est descendue du nord, et la civilisation lui vint ensuite du midi, importée par des étrangers que des circonstances politiques expulsaient des contrées orientales de l'Ancien Monde. C'est là le résumé des documents historiques transmis par les Grecs eux-mêmes sur leur temps primitif. C'est donc dans l'Orient qu'il faut chercher les origines helléniques. Et l'archéologie, pénétrée de cette vérité, proclame d'abord la sublime perfection et l'incomparable supériorité des arts de la Grèce antique. Mais, voulant aussi connaître le véritable point de départ et toutes les transmigrations des arts et des sciences, elle porte déjà ses regards sur les monuments primitifs des nations orientales occupant la scène de l'Ancien Monde et ayant opéré de grandes choses avant que le premier, le nom des Hellènes, sortît brillant de gloire de la profonde obscurité qui, pendant tant de siècles, enveloppa sans exception tous les peuples de l'Occident. On voit ainsi s'étendre nécessairement le domaine de l'archéologie. Cette science, par suite de longs travaux, est parvenue au point où, un dernier effort complétant la connaissance des faits embrassés par ses limites, elle pourra déduire avec sûreté toutes les conséquences de ces mêmes faits bien présentés et fonder enfin un corps de doctrine sur l'origine ou la transmission des idées sociales et les variations du principe des arts, signe permanent et si expressif de l'avancement ou de la décadence des peuples. Les historiens affirme que les introducteurs des premières formes de civilisation un peu avancées parmi les peuplades helléniques de l'Argolide et de l'Attique furent des hommes venus par mer des rivages de l'Égypte. Que, dès ce moment, l'Égypte devint une école où allèrent s'instruire les législateurs de la Grèce, les réformateurs de son culte et surtout les Hellènes d'Europe ou d'Asie qui hâtèrent le développement de la société grecque en propageant d'abord, par leur exemple, l'étude des sciences, de l'histoire et de la philosophie. C'est donc par une connaissance approfondie des monuments de l'Égypte, en constatant surtout, par l'évidence des faits, l'antiquité de la civilisation sur les bords du Nil, antérieurement même à l'existence politique des Grecs, et de plus les relations nombreuses de la Grèce naissante avec l'Égypte déjà vieille, que l'on remontera à l'origine des arts de la Grèce, à la source d'une grande partie de ses croyances religieuses et des formes extérieures de son culte. L'archéologie s'est depuis longtemps pénétrée de l'importance de tels résultats. Mais deux causes principales retardèrent indéfiniment les progrès des études égyptiennes. La rareté des monuments originaux et l'ignorance complète de la langue des anciens Égyptiens. Dès le XVIIe siècle, quelques cabinets renfermaient déjà un certain nombre d'objets d'art égyptiens de différents genres, envoyés en Europe par des agents consulaires comme de simples objets de curiosité. La plupart de ces monuments provenaient de fouilles exécutées sur l'emplacement de Memphis. C'étaient des amulettes, un petit nombre de bronze, beaucoup de petites figurines en terre émaillée, images funéraires sorties en abondance des hypogées de Saqqara. Enfin, quelques momies communes et fort peu remarquables sous le rapport de la décoration ou de la richesse des peintures. Plus tard, on posséda des lambeaux de manuscrits égyptiens sur toile, des bandelettes couvertes de caractères sacrés, chargées de longues inscriptions hiéroglyphiques. Ces divers objets appelèrent enfin l'attention des savants sur le système d'écriture des anciens Égyptiens. Les rares documents épars dans les auteurs grecs et latins, relatifs à la nature des signes graphiques employés par cette nation, excitaient encore plus la curiosité. On commença, dès cette époque, à rechercher les monuments figurés de l'Égypte. On étudia les obélisques de Rome, récemment exhumés ou relevés par la munificence des pontifes, et l'archéologie s'enrichit ainsi d'une nouvelle branche, qui, toutefois, demeura longtemps stérile par la fausse direction que les érudits imprimèrent à leurs recherches. Une critique rigoureusement épurée ne présidait point encore à l'étude des textes classiques sous le double rapport de l'histoire et de l'archéologie. On ne saisit point alors les importantes distinctions formellement établies par les auteurs anciens entre les différents systèmes d'écriture usités chez les Égyptiens. On généralisa trop ce que ces auteurs n'avaient affirmé que d'une certaine classe de signes seulement. Et dès lors, les études égyptiennes dévièrent de plus en plus du but véritable, car, partant de faux aperçus, on mettait en fait que l'écriture égyptienne, dite hiéroglyphique, ne représentait nullement le son des mots de la langue parlée, que tout caractère hiéroglyphique était le signe particulier d'une idée distincte. Enfin, que cette écriture ne procédait à la représentation des idées que par des symboles et des emblèmes. De tels principes, auxquels des érudits de nos jours n'ont point encore renoncé, ouvraient à l'imagination un champ bien vaste, ou plutôt une carrière sans limite. Le jésuite Kircher s'y jeta, et, ne gardant aucune réserve, abusa de la bonne foi de ses contemporains en publiant, sous le titre d'Oedipus Aegyptiacus, de prétendues traductions des légendes hiéroglyphiques sculptées sur les obélisques de Rome, traductions auxquelles il ne croyait point lui-même, car souvent il osa les étayer sur des citations d'auteurs qui n'existèrent jamais. Les rêveries de Kircher contribuèrent aussi à répandre dans le monde savant ce singulier préjugé, subsistant aujourd'hui même dans quelques esprits, d'après lequel les inscriptions hiéroglyphiques sculptées sur tous les monuments sans exception étaient jadis comprises par ceux-là seuls d'entre les Égyptiens que leur lumière avait appelés aux grades avancés de l'initiation religieuse. On croyait alors que tous ces textes antiques roulaient uniquement sur des sujets cachés et mystérieux, qu'ils étaient un objet d'étude réservé à une petite caste privilégiée, et qu'ils renfermaient uniquement les doctrines occultes de la philosophie égyptienne. Cette idée fausse parut en quelque sorte confirmée par l'opinion, tout aussi hasardée, qui attribuait alors à la masse entière des signes composant l'écriture sacrée des Égyptiens une nature purement idéographique. On en était venu à considérer toute inscription égyptienne comme une série de symboles et d'emblèmes, sous lesquels se cachaient obscurément de profonds mystères, en un mot, comme la doctrine sacerdotale la plus secrète expliquée par des énigmes. Partant de pareilles hypothèses, les études égyptiennes ne pouvaient compter sur aucun progrès réel, puisque d'autre part, on voulait parvenir à l'intelligence des inscriptions hiéroglyphiques en négligeant précisément le seul moyen efficace auquel put se rattacher quelque espoir de succès, la connaissance préalable de la langue parlée des anciens Égyptiens. Cette notion était cependant le seul guide que l'explorateur dut adopter avec confiance dans les trois hypothèses possibles sur la nature de cet antique système graphique. Si, en effet, l'écriture hiéroglyphique ne se composait que de signes purement idéographiques, c'est-à-dire de caractères n'ayant aucun rapport direct avec les sons des mots de la langue parlée, mais représentant chacun une idée distincte. La connaissance de la langue égyptienne parlée devenait indispensable, puisque les caractères, emblèmes ou symboles employés dans l'écriture à la place des mots de la langue devaient être disposés dans le même ordre logique et suivre les mêmes règles de construction que les mots dont ils tenaient la place. Car il s'agissait de rappeler à l'esprit, en frappant les yeux par la peinture, les mêmes combinaisons d'idées qu'on réveillait en lui en s'adressant aux organes du sens de l'ouïe par la parole. Si, au contraire, et en opposition à la croyance si générale à cette époque, le système hiéroglyphique employait exclusivement des caractères de son, ces signes ou lettres composant l'écriture égyptienne, sculptés avec tant de profusion sur les monuments publics, ne devaient reproduire d'habitude que le son des mots propres à la langue parlée des Égyptiens. En supposant enfin que l'écriture hiéroglyphique procéda par le mélange simultané de signes d'idées et de signes de sons, la connaissance de la langue égyptienne antique restait encore l'élément nécessaire de toute recherche raisonnée ayant pour but l'interprétation des textes égyptiens. On ne songea même pas à user de cet instrument d'exploration d'un effet si certain. Et cependant, il n'était point douteux, même dès les premières années du XVIIe siècle, que les manuscrits coptes rapportés d'Égypte par les missionnaires ou par les voyageurs ne fussent conçus en langue égyptienne écrite avec des caractères très lisibles, puisque l'alphabet copte, c'est-à-dire l'alphabet adopté par les Égyptiens devenus chrétiens, n'est que l'alphabet grec accru de quelques signes. Par une singularité bien digne de remarque, ce fut le professeur Kircher lui-même qui donna, en 1643, sous le titre de Lingua Aegyptiaca Restituta, le texte et la traduction de manuscrits arabes recueillis en Orient par Pietro della Valle et contenant des grammaires de la langue copte, plus un vocabulaire copte arabe. Dans cet ouvrage, qui, malgré ses innombrables imperfections, a beaucoup contribué à répandre l'étude de la langue copte, Kircher ne put se défaire de son charlatanisme habituel. Incapable de tirer aucune sorte de profit réel pour ses travaux relatifs aux hiéroglyphes du recueil étendu de mots égyptiens qu'il venait de publier, il osa introduire dans ce lexique et donner comme copte plusieurs mots dont il avait besoin pour appuyer ses explications imaginaires. Ainsi, la connaissance du copte fut d'abord propagée en Europe dans le seul intérêt de la littérature biblique. Somèze, le premier, montra l'avantage que la philologie pouvait retirer des notions renfermées dans les textes coptes, en expliquant, par leurs moyens, un bon nombre d'anciens mots égyptiens rappelés dans les écrivains grecs. Plus tard, les travaux de Wilkins et de Lacroze ayant facilité la connaissance de la langue copte, l'archéologie, détournée des études égyptiennes par d'inutiles tentatives et surtout par les extravagants abus que l'on s'était permis, y fut enfin ramenée par l'espoir, assez fondé en apparence, d'expliquer le système religieux de l'ancienne Égypte et, par suite, les monuments de son culte, en réunissant et en classant les passages épars dans les auteurs grecs et latins concernant les attributions des divinités égyptiennes et en interprétant les noms mêmes de ces divinités à l'aide des vocabulaires coptes. Ce fut là le véritable but que se proposa Paul-Ernest Jablonski lorsqu'il entreprit l'ouvrage intitulé « Pantheon Aegyptiorum, Sive Dediis Eorum Commentarius ». Toutefois, ce savant, doué d'une vaste érudition, n'avait point pesé toutes les difficultés de son entreprise. il était fort présumable, en effet, que les écrivains grecs et latins, ne parlant que par occasion de la croyance et du culte des Égyptiens, devaient seulement donner des notions partielles, locales et nécessairement incomplètes du système religieux de cet ancien peuple. Et quant à l'interprétation des noms égyptiens de divinité par la langue copte, pouvait-on se flatter déjà que le petit nombre de textes coptes dépouillés par Jablonski ou par son maître Vessir Lacroze renferma tous les mots radicaux dont se composaient les noms des dieux et des déesses de l'Égypte ? Était-il enfin démontré que les Grecs et les Latins, en transcrivant ces noms, ne les avaient aucunement altérés ? Tout prouve, au contraire, que l'analyse étymologique de ces noms de divinité ne saurait être raisonnablement tentée qu'à la condition préalable de connaître l'orthographe égyptienne de ces mêmes noms. Or, cette connaissance si nécessaire pouvait résulter de la lecture seule des inscriptions égyptiennes. Ces textes restaient encore muets à l'époque où écrivait Jablonski. Aussi sommes-nous obligés de le dire, les éléments phonétiques formant les noms propres originaux des divinités égyptiennes dans les textes hiéroglyphiques n'ont rien de commun avec l'orthographe que leur attribuait Jablonski et ne se prêtent nullement à ces interprétations. La dernière moitié du XVIIIe siècle vit se renouveler quelques tentatives du même genre et tout aussi infructueuses pour l'explication raisonnée des monuments figurés de l'Égypte qui, de temps à autre, arrivaient en Europe par l'effet des relations commerciales avec le Levant. La science ne fit aucun pas vers l'intelligence des antiques écritures égyptiennes. Au milieu de telles dissidences, les véritables amis de l'archéologie se contentèrent de réunir autant que possible, dans les musées publics et dans les cabinets particuliers, les divers produits de l'art antique des Égyptiens. On peut, sous ce rapport, citer comme les promoteurs des études archéologiques égyptiennes le professeur Montfaucon et le comte de Caylus, quoique ces études n'aient réellement commencé qu'à la publication du grand ouvrage de Zoéga sur les obélisques. Ce savant danois, profondément versé dans la connaissance des classiques grecs et possédant bien la langue copte, l'un des objets spéciaux de ses dernières études, réunit dans un vaste travail sur les obélisques de Rome les principaux résultats de ses recherches relatives à l'Égypte ancienne. Conduit par l'examen des inscriptions égyptiennes sculptées sur ce genre de monument à s'occuper de l'écriture hiéroglyphique, il discuta fort en détail et s'efforça d'accorder entre elles les notions fournies par les écrivains de l'Antiquité sur le système graphique des Égyptiens. Sans y réussir complètement, il parvint cependant à réduire la question à ses véritables termes. Et, le premier, il soupçonna vaguement l'existence de l'élément phonétique dans le système de l'écriture sacrée, mais sans lui donner aucune extension, et le réduisant à quelques caractères qui procédaient à l'expression des sons par la même méthode que notre jeu d'écriture, appelé rébus. Jugeant avec sévérité et en pleine connaissance de cause tous les traités publiés avant lui sur l'interprétation des inscriptions égyptiennes, Zoéga combattit le préjugé si répandu de l'emploi mystérieux des hiéroglyphes réservé à un petit nombre d'adeptes et destiné à l'unique transmission des secrets du sanctuaire. Le savant archéologue pensait avec raison que cette écriture, celle des monuments publics, connue et pratiquée par la partie éclairée de la nation égyptienne, fut employée à la rédaction habituelle des textes relatifs à toutes les matières, objets spéciaux des sciences sacrées ou profanes. Il croyait toutefois que l'usage d'une telle écriture, nécessitant une certaine connaissance du dessin, ne pouvait, sans de grandes difficultés, s'être introduite dans les masses de la population. Cette restriction supposée disparaît aujourd'hui devant l'existence bien prouvée de deux méthodes tachygraphiques employées par les anciens Égyptiens afin de rendre le tracé des caractères hiéroglyphiques aussi facile que rapide.
France Culture et le Collège de France vous proposent une lecture de la leçon inaugurale de Jean-François Champollion.
la publication de l'ouvrage de Zoéga sur les obélisques précéda immédiatement la conquête de l'Égypte par une armée française. Cette glorieuse expédition, unique dans son but à la fois politique et scientifique, car des commissions savantes marchaient avec l'avant-garde de l'armée, donna une vive impulsion aux recherches archéologiques relatives à l'état primordial de l'empire des pharaons. Des Français, que l'amour de la science avait jetés au milieu des hasards de cette entreprise militaire, firent connaître à l'Europe, par des dessins fidèles, l'importance et le nombre prodigieux des monuments antiques de l'Égypte. Des vues perspectives, des plans et des coupes offrant l'ensemble et les détails des temples, des palais ou des tombeaux furent publiés, par les ordres de l'empereur Napoléon, dans le magnifique recueil intitulé « Description de l'Égypte ». Le monde savant conçut pour la première fois une juste idée de la civilisation égyptienne comme de l'inépuisable richesse des documents historiques contenus dans d'innombrables sculptures, instructifs ornements de ces constructions si imposantes. La science sentit alors mieux que jamais le défaut total de notions positives sur le système graphique des Égyptiens. Toutefois, l'abondance des textes hiéroglyphiques et des inscriptions monumentales recueillies en Égypte par le zèle de la Commission française, tout en motivant ses regrets, assura de bien précieux matériaux pour de nouvelles recherches sur la nature, les procédés et les diverses combinaisons des écritures égyptiennes. Disons plus, l'espoir de pénétrer enfin tous les mystères de ce système graphique s'était réveillé tout à coup dans le monde savant, à la seule annonce de la découverte d'un monument bilingue trouvé à Rosette. Un officier du génie, attaché à la division de notre armée d'Égypte qui occupait la ville de Rosette, M. Bouchard, trouva, en août 1799, dans des fouilles exécutées à l'ancien fort, une pierre de granit noir, de forme rectangulaire, dont la face bien polie offrait trois inscriptions en trois caractères différents. L'inscription supérieure, détruite ou fracturée en grande partie, est en écriture hiéroglyphique. Le texte intermédiaire appartient à une écriture égyptienne cursive. La traduction de ce dernier texte, contenant un décret du corps sacerdotal de l'Égypte, réuni à Memphis pour décerner de grands honneurs au roi Ptolémée Épiphane, donnait la pleine certitude que les deux inscriptions égyptiennes supérieures contenaient l'expression fidèle du même décret en langue égyptienne et en deux écritures égyptiennes distinctes, l'écriture sacrée ou hiéroglyphique, et l'écriture vulgaire ou démotique. On dut, avec toute raison, attacher de grandes espérances à la découverte d'un pareil monument. La possession de textes égyptiens, accompagnés de leur traduction en une langue connue, venait établir enfin des points de départ et de comparaison aussi nombreux qu'incontestables pour conduire avec sûreté à la connaissance du système graphique égyptien, par l'analyse combinée des deux inscriptions égyptiennes au moyen de l'inscription grecque. Dès ce moment, il fallut abandonner la voie des hypothèses pour se circonscrire dans la recherche des faits. Et les études égyptiennes marchèrent, quoique avec lenteur, vers des résultats positifs. Dès 1802, un savant illustre, auquel nous sommes redevables en France de l'état florissant de la littérature orientale que ses importants travaux ont si éminemment contribué à propager dans le reste de l'Europe, Monsieur le baron Sylvestre de Sacy, ayant reçu un fac-similé du monument de Rosette, examina le texte démotique en le comparant avec le texte grec et publia le résumé de ses recherches dans une lettre adressée à Monsieur le comte Chaptal, alors ministre de l'Intérieur. Cet écrit renferme les premières bases du déchiffrement du texte intermédiaire par la détermination des groupes de caractères répondant aux noms propres Ptolémée, Arsinoé, Alexandre et Alexandrie, mentionnés en différentes occasions dans le texte grec. Bientôt après, M. Akerblad, orientaliste suédois, que distinguait une érudition très variée et une connaissance approfondie de la langue copte, suivant la même route que le savant français, s'engagea à son exemple dans la comparaison des deux textes. il publia une analyse des noms propres grecs cités dans l'inscription en caractère démotique et déduisit en même temps de cette analyse un court alphabet égyptien, démotique ou populaire. Ce premier succès sembla confirmer d'abord les espérances qu'avait fait naître le monument de Rosette. Mais Akerblad, si heureux dans l'analyse des noms propres grecs, n'obtint aucun résultat en cherchant à appliquer à la lecture des autres parties de l'inscription démotique le recueil de signes dont il venait de constater la valeur dans l'expression écrite de ces noms propres grecs. N'ayant point supposé, d'une part, que les Égyptiens avaient pu écrire les mots de leur langue en supprimant en grande partie les voyelles médiales, comme cela s'est pratiqué de tout temps chez les Hébreux et les Arabes, et d'un autre côté, ne soupçonnant point que beaucoup de signes employés dans ce texte pouvaient appartenir à la classe des caractères symboliques, le savant suédois, rebuté par de vaines tentatives, cessa de s'occuper du monument de Rosette. Il resta prouvé toutefois, par les travaux de messieurs de Sassy et Akerblad, que l'écriture vulgaire des anciens Égyptiens exprimait les noms propres étrangers par le moyen de signes véritablement alphabétiques. Quant au texte hiéroglyphique de la stèle de Rosette, quoiqu'il fût bien naturel de l'étudier d'abord, puisqu'il se compose de signes, images ou de caractères figurés de formes très distinctes, et de le comparer avec le texte grec pour obtenir quelques notions exactes sur l'essence des signes sacrés qui forment le plus grand nombre des inscriptions égyptiennes connues, il ne fut soumis que fort tard à des recherches consciencieuses et jugées telles par la scène critique. On fut probablement détourné de s'en occuper par le mauvais état de cette première portion du monument, des fractures ayant fait disparaître une grande partie du texte hiéroglyphique. Son intégrité eut épargné en effet aux investigateurs de longs tâtonnements et d'innombrables incertitudes. La description de l'Égypte offrit enfin à l'étude des savants d'excellents facsimilés de manuscrits égyptiens, soit hiéroglyphiques, soit hiératiques, et donna, toujours trop tard sans doute pour l'avancement des études paléographiques, une copie des deux textes égyptiens du monument de Rosette, beaucoup plus exacte, sans contredit, que celle qu'avait déjà publiée la Société royale de Londres. Examiné dans l'intérêt réel de la progression des connaissances historiques, ce grand ouvrage donna la certitude que les notions les plus précieuses étaient cachées dans les inscriptions hiéroglyphiques, ornements obligés de tous les édifices égyptiens. Mais certaines déductions, tirées avant le temps de l'examen des tableaux astronomiques sculptés au plafond de plusieurs temples, propagèrent de bien graves erreurs sur l'antiquité relative des monuments. On considéra comme les plus anciens, en les attribuant aux époques primordiales, des temples que des faits positifs nous forcent d'attribuer aux époques les plus récentes. On supposa même, en quelque sorte, que tout monument de style égyptien, décoré d'inscriptions hiéroglyphiques, était par cela même antérieur à la conquête de l'Égypte par Cambyse. Comme si l'Égypte, qui, sous la domination gréco-romaine et antérieurement sous le joug même des Perses, conserva la plupart de ses institutions politiques, renonçant tout à coup à sa religion, à ses propres écritures, avait cessé pendant plus de 8 siècles de pratiquer les arts indispensables à son existence physique et à tous ses besoins moraux. En vain, les voyageurs anglais, excités plus peut-être par un esprit de rivalité nationale que par l'intérêt bien entendu de la science, ont voulu rabaisser l'importance des travaux exécutés par la Commission française. Son ouvrage restera toujours comme un digne monument de notre glorieuse expédition d'Égypte. Et les utiles recherches du docteur Young assureront à l'Angleterre, bien mieux que toutes ses critiques exagérées, une noble part à l'avancement des études égyptiennes. Ce savant apporta dans l'examen comparatif des 3 textes du monument de Rosette un esprit de méthode éminemment exercé aux plus hautes spéculations des sciences physiques et mathématiques. Il reconnut, par une comparaison toute matérielle, dans les portions encore existantes de l'inscription démotique et de l'inscription hiéroglyphique, les groupes de caractères répondant aux mots employés dans l'inscription grecque. Ce travail, résultat d'un rapprochement plein de sagacité, établit enfin quelques notions certaines sur les procédés propres aux diverses branches du système graphique égyptien et sur leurs liaisons respectives. Il fournit des preuves matérielles à l'assertion des anciens relativement à l'emploi de caractères figuratifs et symboliques dans l'écriture hiéroglyphique. Mais la nature intime de cette écriture, ses rapports avec la langue parlée, le nombre, l'essence et les combinaisons de ces éléments fondamentaux restèrent encore incertains dans le vague des hypothèses. Le docteur Jung, comme les auteurs de la description de l'Égypte, ne sépara point d'une manière assez tranchée l'écriture démotique, celle de la deuxième partie du monument de Rosette, appelée aussi encorial, de l'écriture cursive employée dans les papyrus non hiéroglyphiques, texte que j'ai fait reconnaître depuis pour hiératique, c'est-à-dire appartenant à une écriture sacerdotale, facile à distinguer de l'écriture hiéroglyphique par la forme particulière des signes, et séparée de l'écriture démotique ou populaire par des différences bien plus essentielles encore. La question relative à la nature élémentaire du système hiéroglyphique restait donc tout entière. Les écritures égyptiennes procédaient-elles idéographiquement ou bien exprimaient-elles les idées en notant le son même des mots? Mes travaux ont démontré que la vérité se trouvait précisément entre ces deux hypothèses extrêmes. C'est-à-dire que le système graphique égyptien tout entier employa simultanément des signes d'idées et des signes de son. Ce point de fait fondamental, démontré et développé pour la première fois en 1824 dans mon ouvrage intitulé « Précis du système hiéroglyphique », étant appliqué à une foule de monuments originaux, a reçu les confirmations les plus complètes et les moins attendues. 16 mois entiers, passés au milieu des ruines de la Haute et de la Basse Égypte, grâce à la munificence de notre gouvernement, n'ont apporté aucune sorte de modification à ce principe, dont j'ai eu tant et de si importantes occasions d'éprouver la certitude comme l'admirable fécondité. Son application seule a pu me conduire à la lecture proprement dite des portions phonétiques, formant en réalité les 3/4 au moins de chaque texte hiéroglyphique. De là est résultée la pleine conviction que la langue égyptienne antique ne différait en rien d'essentiel de la langue vulgairement appelée copte ou kofte, que les mots égyptiens écrits en caractères hiéroglyphiques sur les monuments les plus antiques de Thèbes et en caractères grecs dans les livres coptes ont une valeur identique et ne diffèrent en général que par l'absence de certaines voyelles médiales, omises, selon la méthode orientale, dans l'orthographe primitive. Les caractères idéographiques ou symboliques, entremêlés aux caractères de son, devinrent plus distincts. Je pus saisir les lois de leur combinaison, soit entre eux, soit avec des signes phonétiques, et j'arrivai successivement à la connaissance de toutes les formes et notations grammaticales exprimées dans les textes égyptiens, soit hiéroglyphiques, soit hiératiques. Ainsi fut levé peu à peu le voile qui couvrait la nature intime du système graphique égyptien. Les matériaux immenses que j'ai recueillis pendant mon séjour en Égypte et en Nubie entre les deux cataractes m'ont donné le moyen de développer ces résultats. C'est en nous initiant de plus en plus dans l'intelligence des textes hiéroglyphiques et hiératiques, lesquels fixent la date et la destination des monuments figurés. C'est par l'analyse raisonnée de la langue des pharaons que l'ethnographie décidera si la vieille population égyptienne fut d'origine asiatique, ou bien si elle descendit, avec le fleuve divinisé, des plateaux de l'Afrique centrale. La connaissance réelle de l'Égypte ancienne importe également aux études bibliques, et la critique sacrée doit en retirer de nombreux éclaircissements. La longue captivité des Hébreux en Égypte, l'éducation toute égyptienne de leurs premiers législateurs, durent nécessairement s'empreindre dans l'organisation politique et religieuse des enfants d'Israël. L'étude des monuments égyptiens originaux, soit antérieurs, soit postérieurs à l'époque de Moïse, donnera donc une intelligence plus complète des textes originaux de la Bible. La renommée et la richesse du sol de l'Égypte, aussi bien que son importance politique dès les temps les plus reculés, ont lié l'histoire de cette contrée avec celle de tous les grands peuples de l'Afrique et de l'Asie ancienne. Mais les annales de la plupart de ces nations ayant péri sans retour, il faut interroger les monuments écrits de l'Égypte. Ils nous rediront les noms des peuplades, aujourd'hui oubliées, jadis soumises à la puissance égyptienne par les pharaons pénétrant dans l'intérieur de l'Afrique et appelant les barbares à la civilisation par le contact ou par l'exemple. Les bas-reliefs d'Isamboul et de Beit Wali, en Nubie, nous montreront les traits physiques de ces hommes de race nègre ou de race cafre, l'époque de leur soumission, leurs costumes, leur manière de combattre, les détails même de leur vie domestique et les rapports directs et variés de la primitive Égypte avec l'Éthiopie, contrée fameuse, où nous reconnaîtrons peut-être le berceau de la population égyptienne. Par l'étude des tableaux historiques sculptés dans les vastes palais de Thèbes, l'aîné des villes royales, nous assisterons en quelque sorte aux expéditions militaires exécutées en Asie dans des temps dont les annales des hommes n'ont conservé qu'un souvenir confus. Les noms des rois égyptiens, auteurs de ces grandes entreprises guerrières, ramenés à la réalité par le témoignage irrécusable des monuments contemporains, rentreront enfin dans le domaine positif de l'histoire. Et cette science, reculant ses limites, portera des lumières inespérées sur des époques abandonnées jusqu'ici dans le vague des périodes fabuleuses, à cause du défaut total de documents ou de l'incertitude extrême des traditions. Ces bas-reliefs, immenses compositions, si remarquables par le grandiose de l'ensemble et l'incroyable variété des détails, si importants d'ailleurs par les légendes explicatives qui leur donnent un caractère tout à fait historique, offriront en même temps à notre curiosité les noms des peuples asiatiques rivaux de l'Égypte, qui lui disputaient la suprématie dans cet ancien monde politique encore inconnu et dont l'histoire écrite abandonne à regret l'époque tout entière aux fictions des mythes héroïques. On s'instruira bien mieux encore en étudiant les longues inscriptions sculptées sur les murailles du palais des rois et contenant le détail circonstancié des expéditions militaires, le poids des pierreries et des divers métaux imposés sur l'ennemi, l'énumération des animaux domestiques, celle des denrées et des objets d'art que les pays conquis devaient régulièrement livrer aux vainqueurs. Ces inscriptions monumentales furent expliquées à Germanicus, visitant les ruines de Thèbes, par les plus âgés d'entre les prêtres du pays. Elles existent encore en grande partie, et Tacite, racontant le séjour du fils adoptif de Tibère au milieu des débris de la vieille capitale des pharaons, a donné du contenu de ces textes historiques une analyse surprenante par son exactitude. L'historien romain semble avoir écrit en ayant sous les yeux une traduction littérale de ces antiques textes. Je les ai retrouvés dans les décombres du palais de Karnak. Sur le sol de l'Égypte, le nombre des monuments de tout genre échappés aux dévastations des siècles et des religions ennemies est encore tel qu'on peut y recueillir en abondance des témoignages directs de l'état graduel de la civilisation du peuple industrieux qui défricha la vallée inférieure du Nil à une époque indéfiniment reculée. Car il faut le dire, les monuments égyptiens des temps les plus antiques ne montrent aucune trace de l'enfance de l'art. Tous le manifestent au contraire à un âge adulte et plein d'expérience. Mais si l'Égypte, dans des périodes fort antérieures aux temps historiques de notre Occident, vit disparaître ses premiers essais de sculpture, de peinture ou d'architecture, et les remplaça par des produits de ces arts déjà développés, régularisés et empreints d'un caractère de simplicité grandiose qu'on ne saurait trop admirer, si l'Égypte, disons-nous, ne conserva aucune trace de ses propres origines, c'est toutefois dans cette contrée que nous devons chercher les origines de la civilisation comme des arts de la Grèce, et par suite, le point de départ de notre civilisation moderne. L'étude des monuments et des textes égyptiens, en nous présentant sous son véritable jour l'état politique et religieux du vieil empire des pharaons, en constatant d'autre part l'état avancé des arts de l'Égypte bien antérieurement aux premières productions de ces mêmes arts en Europe, nous conduira à la source des premières institutions politiques de la Grèce, à Argos et dans Athènes. Cette étude démontrera, par des faits incontestables, l'origine égyptienne d'une partie très importante des mythes et des pratiques religieuses des Hellènes, sur lesquelles reste encore tant d'incertitudes, et qu'on a su, jusqu'ici, réduire en un système régulier, parce qu'on néglige en général de séparer ce qui appartient en propre à la population hellène et ce qu'elle a reçu des colonies orientales. On reconnaîtra, dans les portiques de Beni Hassan et dans les galeries de Karnak, exécutées par les Égyptiens bien avant l'époque du siège de Troie, l'origine évidente de l'architecture dorique des Grecs. En examinant sans prévention les bas-reliefs historiques de Nubie et de Thèbes, on se convaincra que l'art des Grecs eut des sculptures égyptiennes pour premier modèle. Que d'abord, il les imita servilement et se pénétra de la sage simplicité de leur style. Qu'enrichi de ses moyens, l'art grec, adoptant un principe qui ne fut jamais celui de l'art égyptien, la reproduction obligée des belles formes de la nature, s'éloigna de plus en plus du fer primitif et s'éleva de lui-même à cette sublimité que n'atteindront peut-être jamais les efforts de nos artistes modernes. L'interprétation des monuments de l'Égypte mettra encore mieux en évidence l'origine égyptienne des sciences et des principales doctrines philosophiques de la Grèce. L'école platonicienne n'est que l'égyptianisme sorti des sanctuaires de Saïs, et la vieille secte pythagoricienne propagea des théories psychologiques qui sont développées dans les peintures et dans les légendes sacrées des tombeaux des rois de Thèbes, au fond de la vallée déserte de Biban el-Molouk. Mais je dois me borner à ces indications partielles sur la série des faits nouveaux dont les études égyptiennes promettent d'enrichir les sciences historiques. On l'a pressenti sans doute. D'aussi importants résultats ne sauraient acquérir leur poids et toute leur certitude que de l'intelligence réelle des innombrables inscriptions sculptées ou peintes sur les monuments égyptiens. Et l'étude de la langue parlée doit précéder celle des textes où elle est employée. Ce sera donc par l'exposé approfondi des principes de la grammaire égyptienne et des signes qui leur sont propres que nous commencerons des leçons d'où leur sujet même doit bannir tout ornement. À défaut de cet avantage, qui contribuerait sans doute à nous concilier et à soutenir votre attention, j'invoquerai, messieurs, le haut intérêt du sujet de nos études. Et la sincérité de mon zèle me fera peut-être quelques titres à votre indulgence.
C'était la leçon inaugurale de Jean-François Champollion le 10 mai 1831 au Collège de France, lecture de Léon Bonafé. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. Je vous recommande aux belles lettres en 2017 le passionnant ouvrage collectif sous la direction de Wolf Feuerhahn, Politique des chaires au Collège de France. Et également Champollion, un scribe pour l'Égypte par Michel Devachter chez Gallimard Découverte. Réalisation Diffie Mariani, coordination Mérine Meneghetti. Un grand merci à Virginie Chauveté, à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité. Belle journée à l'écoute de France Culture.